Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous avons l'immense plaisir de recevoir ce soir Karine Thuil, qui vient nous parler de son nouveau roman. Et quel roman ? L'invention de nos vies, paru chez Grasset. C'est votre 9e roman, et celui-ci a reçu un accueil très particulier, étant donné qu'il est sur la liste, en tout cas sur le carré final du prix Goncourt. Déjà, quelle impression ça vous fait d'être parmi ces quatre livres ?
Ça me fait très plaisir. C'est la 4e fois que je suis sur la liste du Goncourt, mais c'est la première fois que j'arrive en finale. Ça me fait extrêmement plaisir. D'abord, c'est une forme de reconnaissance. Et puis, j'ai un rapport au texte assez particulier. À la culture française, à la langue française. Je suis fille d'immigrés et ma mère m'a vraiment élevée dans l'amour absolu de la langue française. Donc je me souviens que, avant de m'endormir, je lisais le dictionnaire étant enfant et que très tôt, elle me donnait à lire des ouvrages de littérature qui n'étaient pas d'ailleurs forcément adaptés à mon âge. Donc c'est vrai que avoir une reconnaissance littéraire, c'est quelque chose d'assez symbolique, d'assez fort pour moi. Et puis aussi, il y a un autre élément, c'est que pour être écrivain, j'ai renoncé, on est quand même à Bordeaux, la ville du droit, j'ai renoncé à des études de droit, parce que j'ai préparé une thèse que je n'ai pas soutenue, pour écrire, en fait, pour me consacrer à la littérature. Donc, toute forme de reconnaissance me conforte dans l'idée que j'ai bien fait de faire ces choix-là, qui étaient des choix difficiles à l'époque. Voilà.
Et justement, enfin, vous parliez de vos études de droit. Est-ce que ça influence votre écriture, en tout cas votre façon de structurer votre pensée, votre texte ?
Alors, c'est une question très intéressante parce qu'on ne me l'a jamais posée. Et pourtant, elle est vraiment au cœur de mon travail. Oui, je suis convaincue que mes études de droit m'ont permis de structurer ma pensée. Et on parle beaucoup lorsqu'on écrit un roman, de ce travail, de l'inspiration, du travail d'écriture. Mais en fait, écrire un roman, c'est aussi en fait, retravailler aussi la phrase et travailler la structure d'un texte. Parce que souvent, les gens me disent « Mais quel conseil pourriez-vous me donner ?» Je dis « Écoutez, pour être écrivain, il n'y a pas besoin de beaucoup de conseils. Prenez un carnet, des feuilles et puis écrivez. » Et en général, on arrive à tenir 10 pages, 20 pages, 30 pages. Mais au-delà, il y a des problèmes de structure évident qui se pose et je pense effectivement que mes études de droit m'ont apporté beaucoup. Et l'autre élément, c'est que dans mes livres, j'aborde souvent des questions liées aux droits de l'homme, par exemple. Donc là, il est question de discrimination, notamment de la condition de la femme, de la condition des minorités, de la place des minorités dans la société. Donc, c'est vrai que ce sont des sujets qui me préoccupent. Par le passé, j'ai aussi eu l'occasion de travailler notamment sur les centres de rétention administrative. Donc, des titres, des sujets qui sont effectivement souvent liés à la question juridique. Et si je devais citer, par exemple, des auteurs que j'aimais, je pourrais citer Camus, par exemple.
Oui, alors le droit de l'homme, c'est un thème récurrent dans vos livres, mais aussi celui de l'identité. Donc on voit que c'est un thème qui vous occupe, voire vous préoccupe dès votre premier roman.
Je peux dire même qui m'obsède, ouais. J'aimerais bien passer à autre chose, mais c'est difficile.
Donc qu'on voit très bien dans l'invention de nos vies. Et déjà, on va brosser peut-être les grandes lignes de ce roman pour après s'appuyer sur quelques points précis qui peuvent être intéressants. Donc il s'agit déjà d'une histoire d'amitié donc entre deux hommes qui se retrouvent 20 ans plus tard et l'un se rend compte que l'autre a piqué une partie de sa vie, de son identité justement et on va être dans un jeu d'autant plus pervers que il va être question également d'une femme et déjà, voilà, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, déjà, ces deux personnages. D'un côté, on a donc Samuel.
Donc Samuel, qui est... alors, bon, ils se sont connus donc à la fac de droit quand ils avaient 20 ans. Samuel est un juif, Samir est un musulman. Ils aiment une femme qui s'appelle Nina, qui est une femme extrêmement belle. Et Samuel perd ses parents, il part à l'étranger pour les enterrer, et pendant son absence, Samir a une liaison avec Nina. Et quand il revient et qu'il le découvre quelques mois plus tard, il tente de se suicider dans l'amphithéâtre de la fac pour garder cette femme. Et elle va rester avec lui par dépit. Et Samir va partir à Montpellier pour faire ses études de droit, animé par une véritable rage, hein, un désir de revanche très fort. Et c'est un étudiant extrêmement brillant. Et au sortir de l'école d'avocat, il envoie son CV et ne trouve pas de travail. Il est persuadé d'être victime de discrimination raciale. Et à ce moment-là, il va modifier l'orthographe de son prénom, se faire appeler Sam au lieu de Samir. Et par un quiproquo, en fait, Tahar est un nom qui est porté aussi bien par des musulmans que par des juifs d'Afrique du Nord. Par un quiproquo, dans un cabinet d'avocats où il va enfin être reçu, on va le prendre pour un juif. Et il va laisser ce mensonge prendre corps. L'homme qui va l'embaucher, un certain Pierre Lévy, va se prendre d'amitié pour lui et va l'envoyer à New York pour créer une succursale. Et là, à New York, il va séduire presque malgré lui la fille de l'un des entrepreneurs américains les plus puissants des États-Unis, un juif qui s'appelle Ramberg. Et à partir de là, sa vie va devenir à la fois un conte de fées, parce qu'il va devenir un personnage extrêmement puissant aux États-Unis, un avocat incontournable du barreau, un homme riche, influent. Mais sa réussite repose sur une imposture. Donc sa vie est aussi un véritable cauchemar. Et 20 ans plus tard, ce couple qu'il a connu à 20 ans est en train de regarder la télévision dans un petit appartement de banlieue. Samuel est devenu éducateur social, Nina est devenue mannequin chez Carrefour, et il voit Samir sur CNN devenu cet avocat flamboyant, et il se rend compte effectivement que s'il a brillamment réussi, il a menti sur ses origines et qu'il se fait passer pour ce qu'il n'est pas, notamment en empruntant les origines juives et l'histoire personnelle de Samuel. Et ce sont les retrouvailles de ce trio 20 ans après qui vont faire exploser la vie brillante et bien rangée de Samir.
Et pour ce personnage de Samir, est-ce que vous pensiez à quelqu'un en particulier ? Il y a certains éléments biographiques qui sont qui peuvent faire penser notamment à certains hommes politiques qu'on ne citera pas.
Mais, en Samir ?
Oui.
Vous pensez, vous voulez pas qu'on le cite, mais je vois bon, que
si
vous pouvez
l'être.
Non, parce qu'en fait, je suis nourrie de tellement de. C'est intéressant de voir comment on compose un personnage. C'est vraiment un puzzle, en fait. Ouais. Je lis beaucoup la presse, donc il est nourri à la fois de portraits d'avocats que j'ai pu lire, même d'acteurs, parce que en le décrivant, je pensais à l'acteur Tahar Rahim, par exemple. Et c'est vrai que Samir est un homme qui a un comportement sexuel un peu agressif avec les femmes. C'est un homme à femmes, il collectionne les aventures. Ça se passe à New York, donc il y a effectivement. Ça peut faire penser à l'affaire DSK. Mais en fait, je ne m'en suis pas inspirée du tout sciemment. Je pense que c'est mon inconscient qui a peut-être opéré dans ces moments-là. C'est vrai qu'au moment de l'affaire Strauss-Kahn, beaucoup de romanciers ont eu envie de s'inspirer de cette histoire pour en faire une matière romanesque, mais moi, j'ai renoncé. Mais il y avait des éléments à cette époque qui ont été dits, énoncés, qui m'ont choquée, comme notamment une expression que je reprends, qui est « troussage de domestique », qui m'avait beaucoup heurtée à l'époque. Donc c'est aussi un livre qui aborde la question de la condition de la femme, en fait.
Oui, d'ailleurs, la femme dans vos romans, enfin dans ce roman-là en particulier, on a l'impression que, enfin, vous n'êtes pas très tendre avec elle. C'est vous lui faites subir certaines choses.
Je suis tendre avec elle. Je montre que les hommes ne le sont pas avec elle. Donc, en fait, ce sont les hommes qui agissent ainsi vis-à-vis de ces femmes. Il y a trois personnages de femmes. Donc, il y a Nina. Qui est cette femme sublime et qui, tout au fil du livre, ne sera considérée par les hommes qui prétendent l'aimer que comme un objet sexuel. Ensuite, il y a Rudberg, la très puissante femme de Samir Tahar, qui est une fille extrêmement gâtée, intelligente, une femme de goût, mais on la voit aussi dans des situations où, dans certains milieux puissants, elle perd de sa superbe, c'est-à-dire elle a du mal à s'imposer, elle cache sa féminité. Donc là aussi, c'était pour moi l'occasion de parler de la condition de la femme dans des milieux dits intellectuels. Et enfin, il y a le personnage, un personnage que j'aime beaucoup, qui est le personnage de la mère de Samir, qui s'appelle Nawel et qui est femme de ménage. Et c'est une femme qui va perdre son mari et elle va avoir une liaison avec son employeur, qui est un homme politique français, membre du Parti Socialiste. Et elle va avoir un enfant avec lui que l'homme ne voudra pas reconnaître. Et donc on va la voir au fil du livre se battre, tenter de s'imposer, tenter de s'émanciper. Elle a été mariée de force quand elle était très jeune. Donc c'est vrai que j'ai volontairement choisi de brosser des portraits de femmes soumises, mais qui finissent aussi par s'émanciper du regard des hommes.
D'ailleurs, on se demande si le personnage de la mère, c'est pas la plus sincère finalement. On a l'impression que vos autres personnages jouent un jeu, voire un double jeu, voire un triple jeu, on ne sait pas trop où les situer, tandis qu'elle, elle reste quand même sur la même ligne du début à la fin.
C'est une femme, disons, qui connaissait moins la vie et ses dangers que les autres, en fait, puisque donc mariée de force étant jeune, puis après sous la coupe d'un homme, de son mari, puis après sous la domination de son employeur et amant. Elle va vivre par la suite avec son jeune fils, qui est un délinquant, donc qui est le demi-frère de Samir, qui est un délinquant, un type très violent. Effectivement, je pense que le lecteur a de la tendresse pour cette femme qui se bat avec les moyens qu'elle a, en fait, et qui est une personne profondément humaine.
Toujours par rapport aux femmes. Bon, sans vous dévoiler le dénouement pour ceux qui, parmi vous, qui n'auraient pas encore lu, Samuel retrouve Nina dans un foyer pour femmes, et la première réaction, c'est que quand on lui parle de la bibliothèque, c'est qu'il est persuadé que la bibliothèque est composée que de livres de littérature romanesque de bas étage. Et là, il va se rendre compte qu'il a, il a faux. Hein. Si je peux me permettre, si je peux lire juste, c'est pas très long. Donc ça, c'est la personne responsable du foyer qui dit, en montrant les rayonnages de la bibliothèque, voilà ce qu'elle dit. Quand on lit Tolstoï, Duras, Stendhal, on en apprend plus sur les rapports homme-femme que par sa propre expérience. Et puis, on finit par écrire sa propre histoire. Alors, il ne répond rien, donc Samuel. Observe les livres. La plupart ont été écrits par des femmes. Alors attention, Simone de Beauvoir, Marguerite Yourcenar, Marguerite Duras, Joyce Carol Oates, Siva Plas, Virginia Woolf, Cynthia Ozick, Anna Akhmatova, Marina Tsvetaeva, où sont les femmes, plaisante-t-il ? Et là, répond, partout. Et on a l'impression que ça correspond.
Où sont les hommes, en fait ?
Où sont les hommes, voilà. Partout. Et partout. Et on a l'impression que ouais, c'est ça.
Bon, ce livre, c'est aussi pour moi l'occasion de parler de la place et du statut de l'écrivain, parce que Samuel, qui est éducateur social en banlieue, rêve d'être écrivain et finalement va le devenir. Mais aussi de parler du rapport homme-femme dans les milieux littéraires, oui, où la femme est souvent est rarement considérée comme un écrivain, en fait. C'est très difficile, le statut de la femme écrivain, oui. Encore aujourd'hui. C'est assez sidérant de constater des réactions extrêmement misogynes. Ce sont des choses que j'ai souvent vécues ou ressenties, donc j'avais envie, dans un roman, effectivement, d'imaginer cette scène où on verrait Samuel arriver dans cet endroit en se disant « bon, ben, on va y trouver des romans à l'eau de rose » et il est étonné de lire, de voir des grands textes. Et pour moi, c'était aussi ma petite contribution personnelle.
Il est également question de... Il y a pas mal de passages sur l'écriture, en général. Vous dites que l'auteur... en tout cas, le romancier écrit contre. D'ailleurs, j'aimerais bien que vous lisiez ce passage, si ça vous ennuie pas.
Non, avec plaisir.
En plus, c'est très intéressant d'écouter un peu le... parce que voilà, vous avez quand même une écriture très particulière, très rythmée, et ça va être intéressant de...
J'espère que je vais bien
pouvoir comparer ça. Enfin,
j'ai certains amis auteurs qui sont aussi comédiens, et c'est très impressionnant, mais je ne le suis pas, donc je vais faire au mieux. C'est une question que l'on pose souvent aux écrivains. Combien de temps mettez-vous pour écrire un livre ? Comme si l'écriture avait un lien quelconque avec l'architecture, la construction, le bâtiment. On pourrait prévoir des délais de fabrication, une date de livraison. Chacun récupérerait son dû. On serait quitte. Bien qu'il n'y ait pas de règles, l'écriture supporte mal les contraintes. Il y a quelque chose d'asocial dans l'acte d'écrire. On écrit contre. Dans ces conditions, comment parvenir à établir les bases d'un contrat social quelconque ? Samuel n'y est jamais parvenu. C'est pourquoi il avait choisi d'être éducateur, pour rester dans une zone marginale, peuplée d'êtres aussi souffrants que lui, à des degrés différents peut-être, mais blessés, fêlés. Depuis le départ de Nina, sa vie s'est organisée autour de sa solitude. Écrire lui permet de maintenir la dépression à distance. Il écrit pour survivre, ne pas tomber malade. Il travaille, entreaperçoit les pierres de l'édifice et peut désormais répondre un an. Il y a une autre question, plus rarement posée, et qui est pourtant au centre du dispositif créatif. À quel moment sait-on qu'un livre est fini ? Cette question-là, Samuel y est confronté chaque jour depuis un mois. Il relit, ajoute, retranche, corrige. Sa stabilité morale ne dépend plus de l'amour d'une femme, mais de la place d'un mot, d'un point-virgule, du rythme d'une phrase. La musicalité de la langue. Ce besoin d'être connecté à l'écrit, comme si l'on excavait en soi, pour y remonter quoi ? Il n'a rien trouvé d'aussi intense pour supporter le cours chaotique de l'existence. Quand Samuel lit sans annoter, il sait que son texte est fini. Il n'y a plus rien à apporter, il peut l'envoyer. Il décèle bien ça et là des baisses de rythme, des ruptures qui pourraient déstabiliser son lecteur. Il pressent ce qui pourrait ne pas plaire. Il ne change rien. Écrire, c'est accepter de déplaire. Le souci de perfection, l'obsession du bien faire, du bien écrire, ça l'angoisse. La littérature est désordre. Le monde est désordre. Comment rendre compte autrement de sa brutalité ? Les mots ne devraient pas être à la bonne place. La littérature est là, précisément, dans cette zone d'insécurité.
C'était bien lu. Alors justement, est-ce que vous adhérez à ces propos ?
Ah oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment,
c'est du vécu,
sont vraiment des réflexions personnelles. Tout à fait, je crois qu'on écrit contre son éducation, contre ses obsessions, contre son identité, contre ce que l'on est, contre ce qui nous choque dans la société. Et ce livre-là, je l'ai écrit particulièrement contre. J'étais dans un état, en l'écrivant, d'hostilité, en fait. Parce qu'il y avait des choses dans la société qui me choquaient. Donc j'avais envie d'écrire un livre sur la question de la place sociale. Un des éléments qui m'ont donné envie d'écrire ce livre, c'était la vague de suicide à France Télécom. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé dans notre société pour que des gens en viennent à se suicider sur leur lieu de travail ? Et on apprenait tous les jours que des gens s'étaient tués, ou même après, un peu plus tard, à la poste. Je me suis dit, on est dans une misère affective et sociale terrible. Et puis, je percevais la brutalité, la pression, la peur que les gens avaient de perdre leur travail. Et ça faisait naître une agressivité même sur les lieux de travail eux-mêmes. Et j'avais envie d'écrire sur cette question-là, en fait. Alors, à travers différents personnages et... notamment le personnage de Samir, qui est issu d'une minorité, ce qui ajoute de la difficulté. Mais c'est vrai que j'ai écrit ce livre contre ce qui me choquait dans la société, parce qu'il me semblait qu'à notre époque, enfin, j'ai commencé à écrire ce livre il y a quelques années, mais on avait atteint un point de non-retour. Il y avait eu l'affaire Kerviel, l'affaire Madoff, tous ces scandales financiers dans cette société de l'argent roi. Avec la perte de certaines valeurs, comme les valeurs intellectuelles, culturelles. Voilà, parallèlement, on assistait à l'essor d'Internet, le déclin un peu du livre. Et donc, tous ces éléments m'ont forcément donné envie d'écrire sur ce sujet. Et notamment, c'est pour ça aussi qu'il y a des pages qui sont consacrées à l'écriture et à la place de l'écrivain. Parce que quand vous choisissez d'être écrivain, vous choisissez une vie... très incertaine, en fait, hein, très inconfortable, parce que vous ne savez jamais de quoi sera fait demain. Vous travaillez avec du rien. Le mot, c'est un matériau, j'allais dire invisible. C'est pas comme un menuisier qui travaille son bois. Donc, quelque chose d'impalpable et qui est assez angoissant. Et donc, c'était aussi pour moi l'occasion d'aborder cette question-là. C'était mon 9e livre et je me sentais enfin prête à parler de cela. Et donc, il y a beaucoup de pages, effectivement, consacrées... à à l'écriture, à la façon dont un écrivain travaille, dont il se nourrit. C'est pas forcément toujours personnel, hein. Il y a aussi une réflexion sur la façon dont on peut s'emparer de la vie des autres pour nourrir son propre travail aussi. Parce qu'effectivement, Samir emprunte l'identité de Samuel, mais quand Samuel aura besoin d'un sujet pour nourrir son prochain livre, il va lui aussi retrouver Samir tel un vampire pour avoir une matière romanesque. Donc là aussi, c'était des éléments qui étaient intéressants pour moi à développer dans un roman.
Oui, puis on voit deux réactions différentes, c'est-à-dire que Samir, lui, on a l'impression que le succès qui colle à la peau, enfin en tout cas au début, lui sait en profiter, tandis que Samuel, lui, il a un peu peur de ça. Même il est question qu'il reçoive lui aussi des prix, certains prix littéraires. Et là, il est en train de penser aux grands romanciers qui ont refusé les prix Nobel et compagnie.
Tout à fait, oui. Parce qu'en fait, dès le départ, je voulais que Samir soit... C'est un personnage très solaire, c'est un jouisseur, c'est un homme qui aime profiter de la vie, qui aime le luxe. C'est un pur produit de la société de consommation. Il est assez emblématique de notre société. C'est un type brillant, hein, c'est un type très cultivé, mais il aime l'argent, le luxe. Il n'a aucun problème et tabou par rapport à la façon d'utiliser l'argent qu'il gagne. Alors que Samuel, qui est éducateur social en banlieue, qui est plutôt d'extrême gauche... a un mépris, en tout cas apparent, pour ces valeurs-là, enfin pour ces symboles-là. Et puis par la suite, on va voir qu'il va changer, parce qu'effectivement, une fois qu'il va connaître du succès, sa personnalité va changer, mais sa nature profonde va renaître, va refaire surface. Il y a aussi cette question-là du rapport au succès quand on est écrivain, qui est quand même aussi une question complexe que j'avais envie d'aborder dans ce livre.
Parce que la violence, finalement, on se rend compte que plus raciale, elle est sociale.
Tout à fait.
Et c'est notamment, cette idée-là est incarnée à un moment par... alors ça, on n'a pas encore parlé du demi-frère de Samir, François, qui écoute... Une chanson en particulier qui s'intitule « Sale pute », déjà, qui existe vraiment, hein. C'est de Orelsan, j'ai écouté ça, c'est absolument...
Oui, alors justement, ça c'est un élément, je pense, intéressant, parce que j'ai découvert cette chanson par hasard, parce que j'avais lu dans la presse que des personnes avaient porté plainte pour demander l'interdiction de cette chanson. Donc je l'ai écoutée sur Internet, et j'ai été extrêmement choquée par les paroles, c'était une violence, et puis après... J'ai réfléchi aussi avec un certain recul et je me suis dit, mais cette chanson, donc quelques phrases, quelques couplets, montre bien aussi la violence de la société. Donc elle dit quelque chose de la société. Et je crois qu'un romancier, c'est aussi quelqu'un qui va rendre compte de la société. Donc plutôt que d'expliquer différentes façons et peut-être voilà, d'être trop explicatif, justement, plutôt que de... C'est toujours le danger pour un romancier comme pour un cinéaste d'être trop explicatif. J'ai préféré dire qu'il écoutait cette chanson, ce qui dit à la fois des choses sur lui, sur sa propre violence, et des choses sur la société. Il vit dans une banlieue très explosive, près de Paris, et là aussi, la condition de la femme est très particulière. Donc je décris dans ce livre aussi certaines banlieues vraiment très chaudes, quoi.
Et oui, je voudrais juste qu'on reste un petit peu sur ce personnage de François, le demi-frère de Samir, qui est à première vue un personnage secondaire, mais on se rend compte que il fait certaines choses qui font que finalement ça devient pratiquement le personnage principal, parce que ça va bousculer un petit peu l'équilibre, on va dire, assez fragile qu'ils ont pu constituer ces trois personnages. Et déjà, alors voilà, est-ce que vous pouvez nous dire, expliquer, enfin pourquoi avoir inclus ce personnage-là ?
Parce que c'est quand même un livre donc qui parle de l'identité et qui parle de la difficulté à trouver sa place en fonction de selon son identité. Donc de la même façon que Samir, lui, n'a pas réussi à trouver sa place dans le monde dans lequel il évoluait et a été contraint au mensonge identitaire, Samuel, lui, qui est juif, éducateur social dans une banlieue explosive, a dû lui aussi modifier son nom parce qu'il recevait des remarques antisémites. Et François, lui, qui est donc le fruit d'une union entre Nawel et son employeur, un homme politique français, né blond aux yeux bleus, donc d'une mère musulmane, il ne va pas fréquenter son père, il ne va pas être reconnu par son père, et il ne va pas trouver sa place en tant que blanc à la peau, enfin la peau très claire, les yeux blonds, les yeux bleus, dans une banlieue à majorité maghrébine. Donc c'était intéressant pour moi de montrer que chaque... Et donc lui va tout faire pour devenir un parfait musulman, pour justement s'intégrer parfaitement au milieu dans lequel il évolue. Et c'était, voilà, pour moi intéressant de montrer ces différents personnages, et au fond, aucun d'eux ne trouve réellement sa place. Aucun d'eux n'est accepté comme il le voudrait dans les espaces qu'ils occupent.
Finalement, peut-être que la véritable violence sociale, c'est de, justement, comme vous dites, de ne pas trouver sa place.
Bah oui, c'est exactement ça. C'est vraiment un livre qui aborde cette question-là, la question de la place, et puis aussi du déterminisme. Est-ce que finalement, on est condamné à être ce que nos parents ont décidé pour nous, ce que la société a voulu cette question des chances du départ et la possibilité que l'on a de les utiliser au mieux ou pas. Et là aussi, c'était une réflexion qui guide le livre. Hein, parce que, par exemple, Samuel, qui avait de bonnes chances au départ, va détruire sa vie, alors que Samir, qui avait des chances assez faibles, va quand même... Bon, d'accord, il a construit sa vie sur un mensonge identitaire, mais il a quand même fait quelque chose de sa vie. Il est devenu un brillant avocat, il est devenu quelqu'un. Et son jeune frère François, qui, lui, aurait pu s'en sortir, hein, puisque Samir aidait financièrement la mère... est devenu délinquant. Donc c'est aussi un livre qui parle de cette question-là, sur la façon dont on peut ou non construire sa vie et des chances qu'on a au départ. La grande question du déterminisme qui, pour moi, est très très importante. Vraiment. Alors peut-être là aussi, parce que je suis fille d'immigrée et qu'il y a presque une obligation de réussir, puisque vous savez que vos parents ont fait des sacrifices, ont renoncé à certaines choses, parfois même à faire des études. Et donc vous avez l'obligation de réussir parfois là où eux-mêmes ont échoué, mais là où ils n'ont pas pu aller, en fait.
D'accord. Donc en tant que fille d'immigrée, vous ressentez également cette violence-là ?
Moi, c'est une violence que j'ai toujours sentie, mais je la ressens même dans des milieux plus bourgeois, en fait. Hein. C'est cet impératif, cette injonction de la société qui nous dit de réussir, quoi qu'il arrive, qui nous oblige. Moi, je le ressentais. Moi, c'est quelque chose que je ressentais, y compris dans les milieux dits intellectuels.
Donc, nous avons parlé de... En gros, de la trame narrative, romanesque du moins, des grands thèmes. Et je voudrais qu'on parle un moment de votre style. Et on sent que vous vous amusez en écrivant. Vous avez, par exemple, vous avez cet usage des barres obliques qui permettent de... On a l'impression que voilà, ça foisonne, ça part un peu dans tous les sens. Déjà, pourquoi comment vous avez trouvé cette idée ?
Alors, je voulais... pour un livre qui abordait la question de la brutalité sociale, je voulais trouver une langue qui traduise cette violence-là, et notamment à l'oreille, parce que quand je travaille, je lis à haute voix, et je pense que la musicalité d'un texte, le rythme, sont des éléments très très importants. Et j'ai eu l'idée d'insérer des barres obliques, alors surtout au début du texte, après ça, il y en a moins, parce que j'avais le sentiment qu'à la lecture, ça crée un effet coup de poing, en fait. Ça crée un certain rythme particulier, et que même visuellement, quand on lit à la lecture, la barre oblique ressemble à une lame. Donc il y a une césure qui s'opère. Et de la même façon, je pensais qu'en répétant certains mots, parfois, ou utilisant des synonymes, ou en multipliant les mots, en les séparant par des barres obliques, on crée là aussi un rythme particulier, comme ça, tac, tac, tac. Et pour le lecteur, ça crée un souffle, en fait, assez... qui n'est pas toujours évident, d'ailleurs. Je sais que les premières pages, il faut pouvoir y entrer. Après, le texte est beaucoup plus fluide. Mais j'aime bien l'idée aussi qu'un texte, dans les premières pages, en tout cas pour les premières pages, après c'est plus fluide, mais vous résiste. On dit souvent l'inverse, on conseille souvent au romancier d'accrocher son lecteur dès la première page, mais moi Je pense que de la même façon que... Enfin, moi, je me suis toujours méfiée des gens trop avenants. Les gens qui vous résistent un peu, qui apprennent un peu à vous connaître, des gens un peu bourrus, sont souvent ceux qui deviennent vos meilleurs amis. Et donc là, j'aime bien l'idée d'un texte qui résiste un peu, qui ne se donne pas trop facilement, qui faut insister sur 2-3 pages, 4 pages. Et après, on s'y sent bien et on a envie de rester. Et un texte, en fait, qui ne cherche pas à plaire.
Et... Vraiment, enfin, la lecture de votre roman, on a vraiment l'impression que c'est de l'ordre de l'expérimentation. C'est vrai que parfois, il y a certaines pages, voilà, qui vont être assez lentes, et je me suis surpris parfois à être vraiment essoufflé. La fin, ça, on l'a dévoilé, on ressort, mais il faut plusieurs minutes pour reprendre son souffle. Hein,
c'est quelque chose que j'ai découvert avec la course, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un lien entre les mouvements du corps et l'écriture elle-même. Et j'ai réfléchi.
Et la lecture. Hein.
Et je me suis mise un peu à faire du sport, à courir, à marcher. Enfin, j'ai toujours beaucoup marché, mais à courir un peu. Et je me suis dit que ce serait intéressant dans un texte d'avoir cette même logique, en fait. Donc des moments où on trottine et des moments où des accélérations qui durent 1 ou 2 minutes. Et puis. Après, une marche lente. Et j'ai travaillé la phrase, en fait, de cette façon, ce qui donne cette impression-là.
Ouais. vous avez également... juste une chose par rapport à... Vous parlez de la musique. Donc, vous lisez... Enfin, vous écrivez à voix haute. Est-ce que vous y a également une musique qui vous inspire? Est-ce que vous écoutez la musique en écrivant?
J'essaye de ne pas écouter de musique en écrivant parce que j'ai l'impression que la musique a une vraie influence sur le travail. Et par le passé, je me suis rendu compte que, par exemple, quand j'écoutais une musique classique, un peu sombre, un peu triste, le texte s'en ressentait. Donc j'évite d'écouter de la musique quand j'écris. Mais après, quand je me relis, oui, pourquoi pas, mais surtout de la musique classique.
Alors vous avez également l'autre jeu de... Petit jeu que vous utilisez, ça va être ces fameuses notes de bas de page qui sont parfois amusantes, parfois touchantes. Toujours bien vu, je trouve. Ça va vraiment amuser. Là aussi, ça ajoute, on a l'impression que le lecteur, nous-mêmes en tant que lecteur, on a notre part à jouer là-dedans. Et je ne résiste pas à l'envie de vous lire 2 ou 3 petites notes. Par exemple, attendez, j'essaie de retrouver mon passage... Par exemple, vous faites une note sur Isaac Bashevis Singer. Alors, c'est, voilà. Bien qu'il obtint le prix Nobel de littérature en 1978, Isaac Bashevis Singer affirma « Je considère le fait d'être devenu végétarien comme la plus grande réussite de ma vie. » Voilà, ça, le côté complètement décalé, on s'attend pas du tout à ça. Vous prêtez également ces propos à l'acteur... donc Josh Brolin.
Ah, c'est vrai, hein. c'est sur ses propos, cela.
Ouais. Pour ouais. Josh Brolin, ça ne m'étonne pas aussi de lire ça. Vous savez, c'est l'acteur de No Country for Old Men qui a une coupe un petit peu à la Mireille Mathieu, un super acteur. Et donc la note de bas de page, c'est l'acteur américain Josh Brolin a joué dans 30 de films. À un journaliste français qui lui demandait s'il n'avait jamais envisagé d'abandonner le cinéma, il avait répondu les gens me disaient le succès est imminent. Au bout de 10 ans, je répondais « Oh, ta gueule !» Enfin, voilà, c'est assez marrant. Et peut-être... bon, là, j'en ai d'autres. En fait, je me suis lâché là-dessus. Je voudrais juste en citer une dernière.
Là, c'est des personnages réels, mais il y a beaucoup de personnages inventés aussi.
Ouais. Et un autre, pas que des personnages, d'ailleurs, il y a aussi des concepts. Par exemple, le rêve. Le rêve est un mot qui a brillamment réussi. Régulièrement employé par les plus grands hommes politiques, il a été aussi par certains penseurs, dont Freud. On ne peut pas dire autant de fripolip, mot qui n'a pas eu le destin qu'il méritait et qui aujourd'hui, hélas, en voie de disparition. Fripolip, ça veut dire quoi, ça,
fripolip ? C'est un gourmet.
D'accord.
Bah oui, j'aime bien. D'abord, j'adore les mots, donc c'est l'occasion de jouer avec les mots. Et dans un livre qui aborde la question de la place sociale, je me suis dit que ce serait intéressant de donner une place, donc de nommer les personnages secondaires, y compris les figurants, ceux qui ne font que passer dans le livre, et de mêler des personnages réels et des personnages de fiction. Et là encore, même de jouer avec les mots, hein, puisque de la même façon qu'on peut dire que des êtres ont non réussi, ben voilà, c'est le cas, certains mots sont fréquemment utilisés, et d'autres, j'adore les mots rares en fait. Et je trouve ça toujours très injuste quand je découvre un mot absolument merveilleux qui n'est plus du tout utilisé. Je me dis, c'est dommage, il va se perdre. Plus personne n'utilisera ce joli mot.
Il y en a quelques-uns dans vos romans, voilà. D'ailleurs, que vous distillez.
Et le livre sert aussi à cela. C'est le lieu où, enfin, on peut réhabiliter certains mots.
Alors, le temps passe très vite et en plus de notre temps, enfin, le temps est limité, mais je risque pas l'envie aussi de vous soumettre à ce fameux questionnaire de Proust que fait Samuel vers la fin du roman. Et donc, si vous êtes d'accord. Alors, si vous étiez un objet.
Je serais un livre.
Tout simplement.
Ouais.
Si vous étiez un mot.
Un mot, transmission. Oui. Un mot qui est très très important pour moi.
Alors, si vous étiez une célébrité, en dehors de vous, évidemment.
Woody Allen. Choisis pas le pire, hein, vous avez vu.
Mais Woody Allen, en plus, il apparaît dans votre roman. Ouais. D'ailleurs, le cinéma, c'est important pour vous. On a l'impression que votre livre est quand même assez cinématographique.
Alors, j'aime beaucoup le cinéma et j'ai travaillé sur des scénarios les années précédentes, donc il y a peut-être effectivement une influence puisque c'est un livre assez visuel, mais c'est un univers que j'aime. Oui, j'ai vu qu'en bas que vous vendez des super DVD, j'aimerais pouvoir rester plus de temps pour les acheter.
Si vous étiez un héros de fiction.
Là, c'est difficile. Grégoire Samsa dans La Métamorphose de Kafka.
Si vous étiez, en plus La Métamorphose, c'est aussi un des thèmes d'un de vos anciens romans. Par rapport à un personnage qui n'arrive pas à se situer, enfin qui est entre deux et.
J'ai parlé en fait, c'était une imposture identitaire avec une schizophrénie, c'était interdit.
Ouais, voilà. Oui, enfin. Si vous étiez, alors, un roman.
C'est difficile, ça.
On n'a pas répété avant, vous voyez, c'est vraiment spontané.
Un roman. ça, c'est vraiment une question extrêmement difficile.
Alors, on laisse réfléchir, peut-être avoir l'occasion de prochain roman, vous en parlerez.
Oui, en plus, vous m'avez dit un roman, si encore on m'avait dit un livre, mais...
Ou un livre
Parce qu'en fait, récemment, on m'a demandé de sélectionner les 5 livres qui comptaient beaucoup pour moi. Il y avait le journal de Gombrowicz.
Oui.
Il y avait la lettre au père de Kafka.
Qui sont cités aussi à l'intérieur de vos romans.
Le bruit et la fureur de Faulkner.
Ouais.
Peut-être que je citerai celui-là, en fait. Il y en avait d'autres.
D'accord. Si vous étiez une citation.
Alors, peut-être la citation de Marguerite Yourcenar, la phrase qu'elle prononce à Bernard Pivot dans un entretien où elle parle de la réussite littéraire en disant que ce n'est pas ce qui compte le plus dans sa vie.
D'accord. Si vous étiez une musique
Concerto de Mozart, interprété par Horowitz, faisons-nous plaisir.
Et les qualités que vous appréciez le plus chez vos amis
L'intelligence et la bienveillance.
Ce sont des qualités que vous prêtez aussi à vos personnages
Non.
Non.
Mes personnages sont souvent pervers. Mais dans la vie, oui, j'aime beaucoup les gens bienveillants et puissants intellectuellement. Enfin, curieux intellectuellement. Voilà.
Et puis, on va finir par la question qu'on a posée justement à Samuel. Où et quand avez-vous été la plus heureuse? Lui, il a répondu dans le bureau de mon éditeur.
Effectivement, c'est peut-être le jour où j'ai appris que je serais enfin publiée, après des années de travail et d'attente et de refus. C'était un moment très important.
D'accord. Ouais. Merci beaucoup.
Merci à vous.